suis artiste plasticienne dans un collectif qui s'appelle Les Allumeurs, que j'ai créé il y a 15 ans environ. Ce collectif et moi-même, on est composé plutôt d'un noyau dur de plasticiens, mais il y a aussi musiciens, des vidéastes, et on aborde depuis quelques années notre travail artistique à travers ce qu'on pourrait appeler des recherches-actions sur le terrain. Et on noue des sortes de collaborations avec des gens qui sont dans des problématiques de vie plutôt compliquées. Par exemple des réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants européens ou extra-européens. Et cette année, on travaille avec des familles roms installées depuis plus ou moins longtemps en France. Certains récemment, d'autres depuis parfois plus de 20 ans en fait, dans des bidonvilles. Et ce travail artistique, il est transversal au croisement donc de plusieurs choses, au croisement du social, au regard des personnes auprès de qui nous intervenons. Du politique, bien sûr, parce que nous choisissons de travailler avec des personnes en situation d'exclusion, de discrimination, d'assignation identitaire, d'ostracisation dans les lieux où ils résident. Au croisement aussi de l'anthropologie, car nous avons aussi une posture d'observateur, d'analyse et de synthèse dans les restitutions qu'on fait. Et bien évidemment, au croisement de l'artistique. On dispose de plusieurs expressions médiatiques, donc là aussi on est transversal. On fait de l'art vidéo, de la composition sonore, de l'expérimentation photographique, de l'atelier d'écriture souvent, de la performance théâtrale toujours, et bien sûr de l'art plastique sous toutes ses formes. On a une pratique de tous ces médias qui est en fait très décomplexée. Voilà, parfois on s'improvise vidéaste. Tout ce qui peut amener de l'eau à notre moulin, en fait, on s'en saisit vraiment de manière décomplexée. Ça nous permet de proposer ça aussi aux gens avec qui on travaille et qui n'ont aucune pratique. Il y a de notre part pas du tout de tentative d'éducation formelle à ces médias ou à des pratiques. Nous sommes très attentifs en fait à valoriser les premiers jets des personnes avec qui nous travaillons. Et moi particulièrement, j'aime vraiment valoriser tout ce qui est de l'ordre, de la maladresse justement, de la non-maîtrise, tout ce qu'il y a de poétique là-dedans en fait. Ça me plaît beaucoup. Et bon, bien sûr, on ne se positionne pas du tout comme des artistes d'excellence, ni des représentants de la culture officielle qui défendraient un art majeur et un art mineur. Nous mettons en avant quelque chose de démocratique, plutôt horizontal donc, et de la subversion, ça nous convient tout à fait. On pourrait qualifier notre démarche presque de militante en fait. Ça a vraiment quelque chose à voir avec du militantisme un peu bizarroïde, parce que d'abord on considère l'art comme un outil de dialogue, de résistance bien sûr à la pensée unique, au système dominant, et bien sûr à la culture officielle et institutionnelle, puisque ça c'est revenu à chaque fois. Voilà, et on ambitionne d'être une espèce de bastion de résistance à un monde mauvais, pour faire un clin d'œil à Rémi et à notre ami Laganerie. Donc on a l'habitude de travailler avec des publics très variés. Et ce qui nous intéresse surtout dans ce mode d'approche, en fait, c'est d'interroger la place que chacun a dans le monde et sa conscience de l'autre, de réfléchir à l'impact de nos sociétés sur les singularités de chacun d'entre nous. Ce que le philosophe et poète Édouard Glissant appelle l'identité-relation avec sa notion de créolisation. Presque tout notre travail en fait est basé sur la relation et ce qu'elle produit. Comment la mise en contact de plusieurs cultures, les nôtres avec les leurs, produit un échange fructueux. Comment des éléments hétérogènes s'intervalorisent au lieu de s'effacer. Donc il s'agit vraiment de quelque chose de l'ordre de l'interconnexion. Et on pourrait là aussi employer le concept de Deleuze et Guattari de faire rhizome. De quelque chose qui serait de l'ordre du rhizomique. Nous questionnons les personnes impliquées dans nos projets en permanence. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Comment on se définit? Par rapport à qui? À quoi? À quoi on rêve? Avons-nous des choses en commun ou des choses qui nous opposent? Que va produire la rencontre avec l'autre? Quel objet plastique va en sortir? Et quel impact cette rencontre aura sur nos pratiques futures? Et enfin, comment notre production commune, donc, finale, agira sur le monde qui le recevra? Donc, à nouveau, un autre strat de public, en fait. Comment on va partager ça? Avec l'idée de faire circuler les idées, de confronter les points de vue et nos subjectivités, en se fondant, bien sûr, sur ce que nous partageons ou pas, et cela, quelles que soient nos personnalités, nos nationalités, nos origines, nos habitudes, notre déterminisme, notre culture. Voilà, créer et produire de l'art avec la totalité monde. Nous mettons en place un cadre de pratique artistique tout le temps qui permette justement cette opportunité de rencontre et d'échange qui soit propice à différentes choses et notamment à la déconstruction à la fois des stéréotypes, à l'étude de leur représentation, ces stéréotypes, mais aussi paradoxalement de questionner le mythe des origines et des cultures ancestrales. Souvent c'est assez complexe en fait à faire ces deux choses ensemble. Plus concrètement, si l'imaginaire des gens auprès de qui nous intervenons, par exemple des familles roms en ce moment, est traduit, stimulé, protégé de la violence sociale quotidienne grâce à ce qu'on va tricoter avec eux quotidiennement, est-ce que ça va avoir un impact sur leur vie? Est-ce que ça va transformer aussi leur quotidien? Et puis est-ce que ça va transformer le regard qui est porté sur eux?
Langue morale noble, l'union de tous. Le travail, divers, la société. L'Afrique.
Toute cette réflexion, en fait, elle est mise en pratique en permanence dans nos actions. Alors, action, c'est un mot qui a fait un très long chemin et qui ramène à l'ici et le maintenant, à des formes qui sont souvent dématérialisées et qui, en ce qui nous concerne, sont toujours très éphémères. Par exemple, pour notre projet actuel que nous menons donc avec ces familles roms, ça a donné lieu in situ à une installation artistique de 24 heures au cœur même du campement, avec des performances musicales, des projections vidéo, des expos photos, des prises de parole. Et toutes ces actions, en fait, elles sont bien sûr expérimentales. C'est vraiment la clé de voûte qui permet à la fois d'échanger, de produire de la pensée avec les autres, de la liberté, de s'émanciper tous, nous tous, des conditionnements, des représentations toutes faites. Et ça va poser systématiquement la question de la manière dont on va intervenir. Et même quand on la pense en amont, quotidiennement, en fait, ce truc-là, on doit le re-questionner. Comment on fait pour intervenir? Comment on fait pour faire les choses avec d'autres? Comment on va s'appuyer sur ce qui a été produit en commun après pour trouver une forme qui a du sens pour le public qui va le recevoir? Ces actions, elles sont expérimentales aussi parce que c'est une manière de travailler avec les gens, donc on invente sur le terrain en permanence, de manière complètement empirique et pas linéaire. Ça ne peut se passer et produire quelque chose qu'on a du mal à anticiper que si on laisse donc cette grande place à l'improvisation. Ça permet aussi de tenir compte de la spécificité de chaque groupe, de chaque personne, de ce que produisent les rencontres qui ne sont bien sûr jamais prévisibles, en faisant parfois toutes sortes de détours invraisemblables, mais aussi en suivant le fil conducteur de chacun et aussi des artistes du collectif. Une des contraintes quand on intervient avec des publics comme les nôtres, c'est qu'il y a des façons de considérer des questions politiques et sociales qui se posent et qui échappent parfois et qui empêchent aussi certaines choses. Par exemple, la question des Roms, elle monopolise vraiment le débat de façon quasi idéologique et ça empêche de questionner certaines choses qui, moi par exemple, m'intéressaient autour des stéréotypes, de l'esthétique des stéréotypes. Mais comme tu retombes sur de l'assignation identitaire, tu ne peux plus faire ça en fait. ce projet qui est politique, parfois il t'amène sur un terrain politique, il t'empêche de faire aussi des choses. Nos recherches actions, elles débutent toujours par la collecte d'éléments qui sont liés au territoire et aux singularités culturelles de ceux qu'on rencontre. On essaye de restituer, sous différentes formes d'ailleurs, mais toujours sous forme de traces, de fragments, des espèces de pistes en fait, d'enquête. C'est ce qu'on fait cette année avec le projet du Crében. Donc une recherche action qu'on mène avec des familles roms du centre d'hébergement d'urgence d'Aubervilliers, le CHU, et du campement du terrain Voltaire de Saint-Denis. Sur ces deux sites, on a installé un laboratoire artistique d'observation et on questionne via plusieurs dispositifs d'expression médiatique avec ces familles, avec des femmes, ces femmes, des hommes, des enfants, des adolescents, des grands-parents, la place de la famille et l'impact que notre société, qui est assez désincarnante, a sur ces personnes. Ça se passe dans un contexte social qui est en fait d'une telle violence que ça déplace complètement le geste artistique. Enfin, en ce qui me concerne, c'est que ça m'éloigne énormément de l'idée d'une constitution d'une œuvre plastique, en fait. Parfois, ça me semble complètement dérisoire au regard des problèmes qui se posent. Donc, comment on parle de ça? Comment on crée un objet autour de ça qui soit pas dérisoire, en fait? En tant que directrice artistique des Allumeurs, ces expérimentations, elles me permettent aussi de chercher sans relâche des nouvelles orientations, en réinventant et en redéfinissant les modalités des langages artistiques sous différentes perspectives. Et c'est aussi une manière, bien sûr, de faire un pas de côté. Et pour parler d'un autre projet qu'on a fait récemment, qui s'appelait International Zoom Zoom, on a réfléchi par exemple à Bâton rompu sur le colonialisme avec des migrants venant des quatre coins du monde, à partir de toutes sortes d'ouvrages littéraires qu'on avait amenés, qu'on leur avait proposés, et donc en se nourrissant de la pensée commune de tas de monde, la leur, la nôtre. Et voilà, et là, on décolonisait vraiment autant que possible notre pensée à tous, en fait. Et en cela, moi, je suis assez attachée à l'héritage de certains mouvements d'avant-garde du XXe siècle, comme le mouvement Dada ou les lettristes, les situationnistes, Fluxus, mais même le mouvement punk des années 80, qui a questionné le statut de l'œuvre, la place de l'art, avec souvent beaucoup de dérision, et qui défend quelque chose qui est de l'ordre de la contre-culture. Voilà, moi il me semble que c'est essentiel de ne pas figer l'œuvre et pouvoir la réinventer en permanence, la repenser, la recréer à chaque nouvelle rencontre. Et souvent, nous, on se traîne des thématiques. Alors, on ne parle jamais de création, par exemple. On a des thématiques et souvent, on les réinvente pendant des années, en fait, avec d'autres personnes. On passe à autre chose, puis on y revient sans arrêt. Et on réinvente complètement le truc. Je pense que tout est art, c'est le regard qui va révéler les choses. Et donc j'essaye d'articuler des choses autour du réel, quand on travaille sous forme de recherche-action, c'est sûr, mais de transformer cette matière sans pour autant chercher une vérité, un peu comme des ready-made. Donc voilà, j'enquête, je cherche des pistes pour questionner des sujets sous différents angles, avec d'autres, par exemple des sociologues, des anthropologues, et en essayant de comprendre comment une réalité peut être perçue de manière très différente. L'écart qu'il peut y avoir entre les représentations que je me fais de la réalité et la réalité de chacun, par exemple. J'essaie à partir du regard que je porte sur le réel de le transformer et de donner une autre réalité du monde, en remettant en cause des choses de notre société. J'interprète donc la réalité brute pour la transformer en une espèce d'expression symbolique, une espèce de langage métaphorique où on essaye aussi de balancer en permanence de l'imaginaire. À travers une perspective qui est forcément subjective, c'est même celle des publics avec lesquels on travaille.
On a cassé tout ce qui se passe maintenant. La nana qui trouve qu'il y a quand même des trucs super dans la mondialisation et qui est sûre que ça va le faire. Je pense que nous, notre génération, on n'assume plus. Quelle est donc la singularité de notre langage? C'est là une opération originale, car quand on étudie, on s'aperçoit...
la production artistique, c'est une production de symboles. Et même s'il me semble que tout le processus de création, il est vraiment essentiel avec ces personnes, même si parfois les sujets abordés sont tellement compliqués qu'on ne sait plus comment les aborder plastiquement, et c'est le cas en ce moment, pour qu'ils gardent du sens, de la force, pour pas réduire le propos à des choses qui seraient que d'ordre esthétique et qui pourraient sembler complètement anecdotiques ou dérisoires. Ou alors il faudrait vraiment revenir à l'étymologie du mot esthétique, voilà, du sensible, du perceptible, et pas du tout la science du beau comme on l'envisage aujourd'hui, quoi. Il faudrait vraiment être bien d'accord là-dessus, quoi. Et donc cet objet symbolique que sont donc nos installations, hein, puisque c'est ça qu'on produit, c'est de l'installation. Cet objet artistique, il raconte, il interprète le processus mis en place avec les publics. Ça permet aussi, cet objet donc qui est tangible, c'est de prolonger l'expérience de ces laboratoires avec des spectateurs, avec des regardeurs. On espère toucher en tricotant des choses, de la familiarité, en ouvrant des débats quand on y arrive, en faisant circuler des savoirs, en les questionnant, en faisant circuler des sentiments, en essayant de partager tout ce qui nous traverse. Voilà, et j'imagine toujours l'installation comme quelque chose devant vraiment s'articuler autour de cette expérimentation du spectateur, du regardeur, en l'invitant autant que faire se peut à interagir dans une espèce de dispositif scénique où il est partie intégrante en fait.
Il filmait, autant il a filmé qu'il a mixé. C'est toi qui les as filmés.
Il y a eu des choses qu'on a filmées, il y a eu des choses qu'ils ont filmées. Chaque fois qu'on filme, en fait, ils ont toujours à disposition un outil pour filmer, un appareil photo, soit une caméra. On essaye que les regards, au propre comme au figuré, aient différents angles. Et puis, on avait donné aussi à plusieurs enfants et plusieurs mères de famille des appareils photo jetables pendant un temps déterminé, qui était 2-3 semaines, et on leur avait demandé de photographier leur quotidien, comme ça leur semblait en fait. C'était 25 photos. Ouais, et donc on s'est retrouvés à la tête d'une banque d'images. Voilà. Et qu'on a donc après, on les voit, et puis on avait aussi des Polaroids, je sais pas si vous voyez cette image, ou à un moment donné, elles font ça, on dirait qu'elles s'éventent en fait, c'est les Polaroids qui sèchent. Ah, oui, et puis en même temps, elles posent pour qu'on continue à faire des Polaroids. Donc ça fait des espèces d'images étranges, des espèces de mise en abîme comme ça. Marrant.
Et ça dure combien de temps en fait ce projet? Est-ce qu'il y a un temps défini?
Moi je pense qu'il est intéressant, c'est de rester le plus longtemps possible quand on peut. Ça dépend souvent des financements qu'on a, ça dépend. Alors pour les campements c'est compliqué. Là c'est un campement stabilisé, donc ça, il est autorisé jusqu'en 2020, tu vois, parce que souvent les binovilles sont expulsés tout le temps, donc tu peux pas du tout faire un travail de fond. Mais c'est un premier travail qu'on a commencé en 2012 avec le premier village d'insertion Rome qui avait été monté à Aubervilliers et qu'on a repris cette année, qu'on a commencé au printemps. On a commencé à rencontrer les familles, les représentants des familles pour proposer le projet, pour le co-construire un peu, pour voir si... ce qu'ils en pensaient en fait, s'ils acceptaient, parce que bien sûr ils n'ont rien à foutre de notre projet, je veux dire, ils sont dans une urgence qui fait que c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Donc on a beaucoup discuté avec eux, surtout sur le campement de Saint-Denis. Puis on espère en fait, moi j'aimerais bien arriver à le mener jusqu'en 2020, jusqu'à ce que ces familles en fait soient toutes relogées, puisque c'est ça l'objectif. Et de pouvoir aussi étudier dans le cadre de ces familles l'impact que le modèle d'intégration à la française a sur les singularités de chacun en fait, et de ces familles. Et il est très différent hein, pour chacun, il y a déjà des familles qui sont relogées et il n'y a pas une réponse en fait. Ça a un impact très différent pour chacun, mais voilà, d'étudier juste l'impact que ça a pour ces singularités. Voilà, chacun de ces personnes qui va être relogée, qui va le vivre.
Parce que tu parles de subventions, parce que qui est-ce qui subventionne ça?
On a eu des subventions de la politique de la ville. Et puis on a eu aussi une subvention d'éducation à l'image qui s'appelle Passeur d'images d'Arcadie. Et puis on est soutenu par Robert Villiers, qui est donc notre commune finalement à la Villa Médicis, qui nous soutient depuis toujours en fait.
Voilà. Et puis vous y allez quoi, une journée, deux jours, enfin,
là on est allé trois fois par semaine. Généralement on arrive à 10h et on part vers en fin de journée. Et on essaye d'y être le samedi et dimanche pour pouvoir avoir travailler avec les enfants et les pères de famille et les hommes en fait. Parce que sinon ils sont pas là. Il y a les femmes sont tout le temps là, les enfants en bas âge sont tout le temps là. Mais souvent, il n'y a pas les enfants. Quelques-uns sont scolarisés. En fait, il y a plein d'enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont là quand même. Et qui, quand on vient en semaine, sont vraiment très contents d'être là. Donc, nous, on nous a donné une espèce de petite baraque au cœur du campement, d'une des familles qui est partie. Donc, on a notre petite baraque, qui est notre atelier, qui est repéré par tout le monde. Donc, dès que c'est ouvert, les gens, ils viennent, ils viennent papoter. Les enfants, ils sont... Ils s'incrustent en permanence, ils sont là, ils sont vraiment très contents, tu vois, d'avoir une espèce de point presque pour se retrouver tous aussi, tu vois.
Cette vidéo, elle était sympa, ouais.
Voilà. Et après avoir présenté, donc on a fait dans notre petite baraque une grosse installation qu'on a présentée aux familles. Avec toutes les photos, plein de vidéos, une espèce de petite roulotte multimédia, on va dire. Et puis, et ce qu'on a présenté, donc c'était la première restitution, elle s'est faite sur le campement en fait. Et vraiment, moi je tenais vraiment à symboliquement, tu vois, que ça soit là que ça se fasse. Et puis ensuite, on l'a représenté samedi dernier sur un autre format à la Villa Médicis lors du festival Migrants Scène. Voilà. Avec des expérimentations sonores justement, qui étaient faites en partie par des musiciens des Allumeurs et puis par un des adolescents du terrain avec qui on avait travaillé, voilà, qui était jeune, qui a participé au débat aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Et les musiciens qui sont dans les Allumeurs, ils ont quel parcours qui les a amenés à...
Alors en fait, il y a surtout un musicien qui est Christophe Moy, M-O-Y, qui est clarinettiste et qui est très intéressé par tout ce qui est électromusique, électroacoustique. On enregistre tout en fait, on filme tout et on enregistre tout en permanence. Et avec toute cette matière première, on essaye de faire des choses. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure quand on a vu le texte de Nicolas. Là, par exemple, on a croisé des parties d'entretien qui avaient été faites sur le terrain, des ateliers d'écriture qu'on avait fait avec des enfants qu'on a lus, des espèces de questionnaires de Proust un peu abstraits, et puis des lectures d'ouvrages anthropologiques sur la question rome de Patrick William ou de Claire Ozias, qui est une espèce d'historienne libertaire spécialiste de cette question. À nouveau, des angles de vue très différents, une espèce de polyphonie, de points de vue, de regard.
Thank you. Thank you.
Le geste artistique, la production artistique, c'est une production de symboles. Et même s'il me semble que tout le processus de création, il est vraiment essentiel avec ces personnes, même si parfois les sujets abordés sont tellement compliqués qu'on ne sait plus comment les aborder plastiquement, et c'est le cas en ce moment, pour qu'ils gardent du sens, de la force, pour pas réduire le propos à des choses qui seraient que d'ordre esthétique et qui pourraient sembler complètement anecdotiques ou dérisoires. Ou alors il faudrait vraiment revenir à l'étymologie du mot esthétique, voilà, du sensible, du perceptible, et pas du tout la science du beau comme on l'envisage aujourd'hui, quoi. Il faudrait vraiment être bien d'accord là-dessus, quoi. Et donc cet objet symbolique que sont donc nos installations, hein, puisque c'est ça qu'on produit, c'est de l'installation. Cet objet artistique, il raconte, il interprète le processus mis en place avec les publics. Ça permet aussi, cet objet donc qui est tangible, c'est de prolonger l'expérience de ces laboratoires avec des spectateurs, avec des regardeurs. On espère toucher en tricotant des choses, de la familiarité, en ouvrant des débats quand on y arrive, en faisant circuler des savoirs, en les questionnant, en faisant circuler des sentiments, en essayant de partager tout ce qui nous traverse. Voilà, et j'imagine toujours l'installation comme quelque chose devant vraiment s'articuler autour de cette expérimentation du spectateur, du regardeur. En l'invitant autant que faire se peut à interagir dans une espèce de dispositif scénique où il est partie intégrante en fait,
Et donc ça c'est il filmait et autant il l'a filmé qu'il l'a mixé ou c'est au niveau de c'est toi qui l'as filmé.
Il y a eu des choses qu'on a filmées, il y a eu des choses qu'ils ont filmées. Chaque fois qu'on filme, en fait, ils ont toujours à disposition un outil pour filmer, un appareil photo, soit une caméra. On essaye que les regards, au propre comme au figuré, aient différents angles. Et puis, on avait donné aussi à plusieurs enfants et plusieurs mères de famille des appareils photo jetables pendant un temps déterminé, qui était 2-3 semaines, et on leur avait demandé de photographier leur quotidien, comme ça leur semblait en fait. C'était 25 photos. Et donc on s'est retrouvés à la tête d'une banque d'images. Voilà. Et qu'on a donc après, on les voit, et puis on avait aussi des Polaroids, je sais pas si vous voyez cette image, à un moment donné, elles font ça, on dirait qu'elles sont en fait, c'est les Polaroids qui sèchent. Et puis en même temps, elles poussent pour qu'on continue à faire des Polaroids. Donc ça fait qu'ils sont ces images qui prennent les autres mises en abîme. Alors, moi je pense qu'il est intéressant, c'est de rester le plus longtemps possible quand on peut. Ça dépend souvent des financements qu'on a, ça dépend. Alors pour les campements, c'est compliqué. Là, c'est un campement stabilisé, donc ça, il est autorisé jusqu'en 2020, tu vois. Parce que souvent, les minoïdes sont expulsés tout le temps, donc on ne peut pas du tout faire un travail de fond. Mais c'est un premier travail qu'on a commencé en 2012 avec le premier village d'insertion Rome qui avait été monté à Aubervilliers et qu'on a repris cette année. Qu'on a commencé au printemps, on a commencé à rencontrer les familles, les représentants des familles pour proposer le projet, pour le co-construire un peu, pour voir si ce qu'ils en pensaient en fait, s'ils acceptaient, parce que bien sûr ils n'ont rien à foutre de notre projet, ils sont dans une urgence qui fait que c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Donc on a beaucoup discuté avec eux, surtout sur le campement de Saint-Denis. Et puis on espère en fait, moi j'aimerais bien arriver à le mener jusqu'en 2020, jusqu'à ce que ces familles en fait soient toutes relogées, puisque c'est ça l'objectif, et de pouvoir aussi étudier dans le cadre de ces familles l'impact que le modèle d'intégration à la française a sur les singularités de chacun en fait, et de ces familles roms. Il est très différent hein, pour chacun, il y a déjà des familles qui sont relogées et il n'y a pas une réponse en fait. Ça a un impact très différent pour chacun, mais voilà, d'étudier juste l'impact que ça a pour ces singularités. Voilà, chacun de ces personnes qui va être logé, qui va le vivre.
Si tu parles de subvention, parce que qui est-ce qui subventionne ça?
On a eu des subventions de la politique de la ville, Et puis, on a eu aussi une subvention qui d'éducation à l'image qui s'appelle Passeur d'images d'Arcadie. Et puis, on est soutenu par Aubervilliers, qui est donc notre commune, puis on est à la Villa Médicis, qui nous soutient depuis toujours, en fait.
Voilà. Et puis vous y allez quoi, une journée, deux jours, enfin,
là on est allé trois fois par semaine. Généralement on arrive à 10h et on part vers en fin de journée. Et on essaye d'y être le samedi et dimanche pour pouvoir avoir travailler avec les enfants et les pères de famille et les hommes en fait. Parce que sinon ils sont pas là. Il y a les femmes sont tout le temps là, les enfants en bas âge sont tout le temps là. Mais souvent, il n'y a pas les enfants. Quelques-uns sont scolarisés. En fait, il y a plein d'enfants qui ne sont pas scolarisés, qui sont là quand même. Et qui, quand on vient en semaine, sont vraiment très contents d'être là. Donc, nous, on nous a donné une espèce de petite baraque au cœur du campement, d'une des familles qui est partie. Donc, on a notre petite baraque, qui est notre atelier, qui est repéré par tout le monde. Donc, dès que c'est ouvert, les gens, ils viennent, ils viennent papoter. Les enfants, ils s'incrustent en permanence, ils sont là, ils sont vraiment très contents, tu vois, d'avoir une espèce de point presque pour se retrouver tous aussi, tu vois.
Cette vidéo, elle était samedi,
voilà. Et après avoir présenté, donc on a fait dans notre petite baraque une grosse installation qu'on a présentée aux familles, avec toutes les photos, plein de vidéos, une espèce de petite roulotte multimédia, on va dire. Et puis, et ce qu'on a présenté, donc c'était la première restitution, elle s'est faite sur le campement en fait. Et vraiment, moi je tenais vraiment à symboliquement, tu vois, que ça soit là que ça se fasse là. Et puis ensuite, on l'a représenté samedi dernier sur un autre format à la Villa Médicis lors du festival Migrants en scène. Voilà. Avec des expérimentations sonores justement qui étaient faites en partie par des musiciens des Allumeurs et puis par un des adolescents du terrain avec qui on avait travaillé, qui était Yonot, qui a participé au débat aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Et les musiciens qui sont dans les Allumeurs, ils ont quel parcours qui les a amenés à...
Alors en fait, il y a surtout un musicien qui est Christophe Moy, M-O-Y, qui est clarinettiste. Et qui est très intéressé par tout ce qui est électromusique, électroacoustique. On enregistre tout en fait, on filme tout et on enregistre tout en permanence. Et avec toute cette matière première, on essaye de faire des choses. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure quand on a vu le texte de Nicolas. Là, par exemple, on a croisé des parties d'entretien qui avaient été faites sur le terrain, des ateliers d'écriture qu'on avait fait avec des enfants qu'on a lus, des espèces de questionnaires de Proust un peu abstraits, et puis des lectures d'ouvrages anthropologiques sur la question rome, de Patrick William ou de Claire Ozias, qui est une espèce d'historienne libertaire spécialiste de cette question. À nouveau, des angles de vue très différents, une espèce de polyphonie, de points de vue,